elle est magnifique, mais un peu problématique. La politique comme si comme ça, la formation comme si comme ça, la précision comme si comme ça.
Et nous vous en parlions la semaine dernière dans une des matinales. Michel Onfray, philosophe, était l'invité du Collège académique de Netanya hier soir pour une conférence passionnante sur son nouveau livre, livre intitulé « L'autre collaboration » qui vient de paraître chez Plon. Il dénonce de ce livre l'antisémitisme de nombreux philosophes français à l'origine de l'islamo-gauchisme. Selon lui, il est notre invité. Il est au micro de Lise Benkemoun. Voici cet entretien avec Michel Onfray.
Michel Onfray, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous sur Radio Judaïka. Alors là, vous venez en Israël pour présenter votre nouveau livre qui s'appelle « L'autre collaboration », dont on avait esquissé un peu le projet la dernière fois. Et donc, quelles sont les surprises que vous avez eues en faisant ce bouquin ?
L'étendue des dégâts, je dirais. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais fait un article dans le Figaro pour montrer qu'il y avait un antisémitisme de gauche, mais j'étais resté à quelque chose par moi connu, quoi. Des choses comme Dolbach, comme Sade, comme Voltaire, bien sûr, comme Proudhon, comme Marx, etc. Puis je dis, bon, faut arrêter de laisser croire qu'il y aurait eu des gentils de gauche qui n'auraient jamais été antisémites, et puis des méchants de droite qui l'auraient toujours été. Et je me suis dit, je vais creuser un petit peu plus, et alors là, j'ai découvert un certain nombre de choses. Alors, j'ai pas découvert chez Sartre et Beauvoir, je le savais. Pas non plus chez Alain, puisque c'est moi qui ai fait publier son journal, le journal dans lequel on trouve sa dilection particulière pour Adolf Hitler, sa détestation pour le général de Gaulle et des considérations antisémites en quantité. Mais j'ignorais par exemple que chez Ricoeur, on retrouvait un vieux pétinisme, mais très ancien, c'est-à-dire pas du tout ce qu'il a dit quelques années, voire quelques mois, et abusé par, etc. Pas du tout, il a été pétiniste tant que Pétain était au pouvoir. J'ai découvert des choses terribles chez Jean Genet, que j'ai intégré alors que je voulais que ce soit seulement les philosophes, mais il y a chez Jean Genet une dimension, il cache l'essai, je dirais, dans le roman, dans la pièce de théâtre. Et donc quand il célèbre les nazis, quand il célèbre la Gestapo, la milice, quand il célèbre le tankiste allemand, quand il célèbre l'officier supérieur qui a ravagé Oradour-sur-Glane, on se dit tout de même, quoi, tout de même. J'ai vu des choses pas très agréables non plus dans cet esprit-là chez Deleuze. J'ai vu ça chez Jean-Luc Nancy. Alors ça, c'est peut-être plus inconnu, mais chez Jean-Luc Nancy ou Lacoula Barthes, parce qu'ils passent pour des philosémites. Et je suis très étonné de la part de gens qui ne le savent pas lire ou qui ne lisent pas. Ou chez Badiou, qui sont des gens qui disent des choses effrayantes. Badiou dit à un moment donné, bon, les Juifs, ça suffit avec la Shoah, quoi. Si vous voulez vraiment être tranquille, oubliez la Shoah. Je me suis dit, mais je ne lis pas ce que je lis, là. C'est pas possible que ces choses-là soient dites. Et donc, jusqu'à Michel Serres, qui n'est pas dans le texte, qui n'est pas dans le livre, parce que j'ai lu une biographie abondante de Michel Serres, 700 pages, de François Doss, qui lui-même avait fait une biographie de Paul Ricoeur, dans laquelle j'ai eu les informations le concernant, ou du moins les pistes. Et à un moment donné, où il nous parle de Michel Serres qui s'énerve dangereusement quand on lui dit que la Shoah est la pire catastrophe du XXe siècle, il semble se mettre en colère systématiquement en disant « mais pas du tout, la vraie catastrophe du XXe siècle, c'est Hiroshima ». Et quand on lui pose des questions, apparemment sur ce sujet, il est un peu problématique. Il est très tintinophile, comme on dit, c'est-à-dire qu'il était devenu copain d'Hergé, il a écrit sur Hergé. Et il a trouvé moyen de ne pas dire qu'Hergé avait été antisémite, qu'il avait été proche de milieux fascistes à Bruxelles. C'est quand même très étonnant, d'autant que sur les ondes de France Inter, il nous fait une critique terrible d'Astérix et Obélix, en nous disant que Astérix et Obélix, c'est le fascisme français, que la potion magique, c'est l'éloge de la force, que finalement, Astérix et Obélix, alors que bon, c'est l'éloge d'une espèce de résistance gauloise à l'occupation romaine, il a de la sympathie pour un type qui a été rexiste, c'est-à-dire fasciste, Hergé, et puis de l'antipathie pour la résistance à l'occupant. Donc j'ai fait un texte, et il est dit dans cette biographie que il y a eu des amis de Michel Serres qui s'étonnaient de ses prises de position, et que, enfin, sous-entendu, il y a quelque chose, il y a Anguille Souroche. Et puis il est dit à un moment donné que deux journalistes de Philosophie Magazine, dont Sven Ortoli, avaient été très étonnés qu'il ait pu tenir des propos pareils, et l'avaient retenu sur ses propos. Et en fait, j'ai contacté Sven Ortoli, que j'ai connu à une époque où je n'étais pas interdit de ce genre de presse. Et il me dit, oui, je vais voir, j'ai probablement pris des notes, bien sûr. Alors bon, je pense que pour François Doss, il a dit qu'il avait des informations, mais il n'est pas allé beaucoup plus loin. Et quant à moi, j'ai eu l'honnêteté de lui dire, voilà mon texte, voilà mon plan, voilà ce que je vais dire. Bon, je pense qu'il a eu envie de préserver Michel Serre en disant, non, finalement, il n'y a rien qui mérite que, etc. Donc pour le coup, il faudrait faire un travail. Alors je ne sais pas trop comment le faire. Il faudrait accéder à ces gens qui avaient l'air étonnés qu'ils puissent s'énerver quand on parlait d'Auschwitz, pourquoi ce philosophe nous a dit que c'était absolument Hiroshima et pas du tout Auschwitz, et puis tout ce que tout ça cache. Enfin, mon étonnement est dans un texte qui n'est pas dans ce livre. Mais surtout, quand j'ai fait mon livre sur le traité de la théologie d'abord, et où l'athée que je suis a dit qu'il ne défendait aucune des trois religions monothéistes, on a dit, bah, c'est pas compliqué, en vrai, il est christianophobe, il est islamophobe, et il est antisémite. Ben, j'ai eu droit à ça pendant très longtemps. Et puis après, quand j'ai fait mon livre sur Freud, où je disais que Freud lui-même aimait l'argent et que l'argent était chez lui déterminant dans sa correspondance, où il dit « j'ai essayé l'électrothérapie, la balnéothérapie, des massages, ça marche pas, et moi j'ai besoin d'argent, j'ai une famille, puis j'aime l'argent ». Et il faut que je trouve un truc qui marche, quoi. Et il dit, j'invente un truc, là, qui, finalement, que Bauer avait inventé, c'est la psychanalyse. Et puis après, il se met à pratiquer la psychanalyse comme ça, etc. Et immédiatement, Elisabeth Roudinesco, qui est mariée avec Sigmund Freud, a commencé à faire une campagne de dénigrement contre moi, en disant que j'étais évidemment antisémite, que j'avais dit que Freud avait psychanalysé Adolf Hitler, que dans mon livre, il n'y avait aucune bibliographie, il y a 35 pages de bibliographie, qu'il n'y avait aucune note en bas de page. Et là, tort, il y a une note en bas de page, où je dis, j'ai tellement lu Freud et je l'ai tellement commenté que je ne vais pas faire des notes en bas de page, j'en fais juste une. Et cette note dit, je vais mettre à chaque fois qu'il y aura une citation de Freud, une parenthèse, un chiffre romain, ce sera le volume, un chiffre arabe, ce sera la page. Et donc, il y a 7 ou 8 citations par page. Puis après, ça a été des campagnes de presse en disant, on ferait antisémite dans Libération, dans Le Monde, à France Inter et partout ailleurs. Et parmi les gens les plus acharnés à me détester, il y avait Jean-Luc Nancy, des gens comme ça. Et quand j'ai lu Jean-Luc Nancy, alors il faut avoir le courage, hein, parce que c'est vraiment habitable, mais quand on a fait la part des choses, on découvre qu'il y a une espèce de détestation des Juifs, une espèce de vieille détestation catholique, il y a un catholicisme chez Jean-Luc Nancy, et on retrouve en gros les Juifs, peuple déicide, quoi. Nous avons tué notre propre Dieu.
On a l'habitude.
Oui, depuis 2000 ans. Et je me suis dit, ah bah tiens, voilà, ce personnage qui donnait des leçons d'antisémitisme, qui m'a infligé cette étiquette infamante, finalement, il n'était pas aussi philosémite qu'on veut bien le dire.
Est-ce que c'est la première fois, Michel Onfray, que ça vous saute aux yeux que la gauche est finalement antisémite depuis, pas toujours, mais très longtemps ?
Non, parce que je le savais avec le 18e. Quand j'ai fait ma contre-histoire de la philosophie, j'ai beaucoup lu et des œuvres complètes, et je me suis aperçu que l'antisémitisme au 18e, c'était très important. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui échappent à l'antisémitisme. Vraiment, Voltaire, je disais tout à l'heure, Sade, D'Holbach, Helvétius, les matérialistes, des gens qui passent pour des progressistes. Hein. Alors évidemment, je suis pas un lecteur de la littérature de droite catholique d'avant la Révolution française, mais je présume qu'on doit retrouver le même antisémitisme chrétien, catholique. Mais je ne savais pas que au XXe siècle, l'infamie avait continué après Auschwitz. Bon, j'écarte Alain. Hein. Non, j'écarte pas Alain, puisque enfin, son antisémitisme date d'avant-guerre, disons. Mais il a connu pendant la guerre, puis l'après-guerre. Il meurt dans les années 50, donc il sait ce que ça veut dire, Auschwitz. Et là, j'ai été étonné, oui. Au point que, je vous assure que j'ai trouvé des textes tellement effrayants que quand il a fallu... Alors, vous savez, il y a un droit d'auteur, donc il fait que vous avez le droit de citer je ne sais combien de signes dans je ne sais combien de pages sur... Enfin bon, c'est très calibré. Et puis après, il faut acheter le droit des citations, c'est normal, ça s'appelle le droit d'auteur.
Alors, payer pour tout ça ?
Oui, non, mais le problème, c'est qu'on a refusé la vente des droits d'auteur. C'est-à-dire que les ayants droit de Sartre, de Beauvoir, de Jean Genet, de Foucault et de Deleuze ont refusé que mon éditeur puisse acheter le droit de citer ces textes, Jean Genet notamment. Mais chez Jean Genet, il y a des textes tellement horribles que je comprends bien qu'il n'ait pas envie qu'on connaisse. Même Sartre. C'est-à-dire, il y a un texte qui justifie Septembre Noir, qui est effrayant de Sartre. Et il a été sorti de toutes les bibliographies. Vous avez Sartre en Pléiade, vous avez Simone de Beauvoir en Pléiade, vous avez un livre qui s'appelle Les Écrits de Sartre, de Comte Airy Balka. Vous avez des bibliographies dans la revue Oblique, le moindre papier écrit sur Cuba dans un journal, une espèce de folliculaire d'extrême gauche se trouve noté. Ce texte-là a totalement disparu. Alors évidemment, je me suis fait une joie, moi, de le retrouver et puis de le citer. Et eux, évidemment, ils ne veulent pas qu'on sache que ces textes existent.
Alors si on est déjà sur Septembre Noir, c'est qu'on n'est pas seulement sur de l'antisémitisme, ni même du peuple déicide ou du vieil antisémitisme catholique. On est déjà, comme vous l'avez mis en sous-titre de ce livre, sur de l'islamo-gauchisme en préparation.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mon sous-titre, c'est ça. C'est généalogie française de l'islamo-gauchisme. Alors, vous savez, pendant très longtemps, on disait la théorie du genre, ça n'existe pas. Donc vous aviez même Madame Najat Vallaud-Belkacem qui était ministre de l'Éducation nationale qui nous disait « ça n'existe pas ». Et évidemment ça existe. Donc il y a une espèce de négationnisme chez ces gens-là qui consiste à dire « ça n'existe pas ». Donc l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Alors je dis un, il existe, et deux, voilà à quoi il ressemble. À la fin, je fais une définition, après avoir consacré autant de temps à l'analyse, je fais une définition en disant « eh bien voilà ce qu'il est, 1, 2, 3, 4, 5, etc. » Donc mais cet islamo-gauchisme, bien sûr qu'il existe, et on voit l'évolution au XXe siècle. Évidemment, avant la Shoah, on peut être antisémite à l'ancienne, mais pas les riches, les bourgeois, le capital, le capitalisme, donc les juifs, etc. Ça, c'est la vieille ancienne de Marx, qui avait cessé d'être juif, je le rappelle. Son père s'était converti au protestantisme. Mais de Proudhon, de Fourier, de tout le socialisme français du XIXe siècle. Et Marx n'étant pas français, évidemment, comme chacun sait. Et donc, par la suite, on voit bien qu'il y a un antisémitisme qui est celui des anciens poilus, des gens qui ont fait la guerre 14-18 et qui se disent « ah non, plus jamais ça ». Nous, on a connu ça et on veut pas que ça recommence. Et on leur dit « oui, mais il y a un certain Adolf Hitler qui ne veut pas le savoir, plutôt Hitler ». Que la guerre, et puis la guerre, de toute façon, c'est le truc des juifs. Donc on retrouve Alain. C'est-à-dire qu'il y a évidemment toute l'industrie qui fabrique des canons, ils sont tous juifs, ils ont intérêt à faire la guerre, et plus il y aura d'obus vendus, plus ils feront fortune, et ça, c'est le sale coup des juifs. Ça, c'est Céline, si vous voulez. Bon, je ne vais pas parler de Céline, puisque c'est un romancier, et que ses pamphlets ne sont évidemment pas des essais, encore moins de la philosophie. Et puis après, vous avez la libération des camps. Alors c'est difficile de dire, hein, ils ont le nez crochu, ils ont les oreilles tordues, ils ont les cheveux crépus, etc., comme on pouvait le faire au XIXe siècle, en prétendant à la scientificité, alors qu'on invoquait des fausses sciences. La phrénologie, enfin, la craniologie, on mesurait les espaces entre les yeux, enfin des trucs, évidemment, ça ne tient plus la route, on peut plus. Vous pouvez plus l'être à l'ancienne, je dirais, et comment vous allez faire à ce moment-là?
Ça vous empêche pas de trouver une nouvelle forme.
Et ben voilà, ça s'appelle l'antisionisme. Donc vous dites, oh mais ces juifs, finalement, ça n'a pas été inutile la guerre, vous avez vu, ils ont quand même leur état. Et d'un seul coup, le problème se déplace, ça n'est plus le peuple déicide, ça n'est plus le peuple de l'argent, du capital et du capitalisme, c'est le peuple qui a obtenu une terre en étant géniard avec cette histoire de négationnisme. D'ailleurs, il me revient que j'ai un chapitre consacré à Garaudy, qui est peut-être le plus terrible. Parce que lui, il a tout inventé. Communiste, négationniste, gauchiste.
Mais on n'est pas très surpris pour lui. On le savait.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'avais évidemment pas lu Garaudy. Moi, j'ai jamais été communiste, j'ai jamais été communiste chrétien, j'ai jamais été islamiste, donc je savais tout ça. Mais l'idée de se colter 400 pages, 500 pages, ça, je l'avais pas fait. Et c'est là qu'on découvre que les éléments de langage de l'islamo-gauchisme se trouvent. Mais tout, tout, tout. Négationnisme, antisionisme, antisémitisme, assimilation du peuple juif aux nazis, assimilation des Palestiniens aux juifs, enfin, tous les éléments de langage, ils sont déjà chez ce monsieur.
Est-ce que c'est pas désespérant pour vous, Michel Onfray, qui êtes philosophe, de constater que tous ces gens-là, qui sont censés être intelligents et cultivés, et on le voit aussi avec les grandes universités américaines, pour ne pas citer Columbia, Harvard et compagnie, soient à ce point aveuglés pour devenir, non pas pro-palestinien, parce que ça poserait pas de problème, mais pro-Hamas, et soutien assumé d'une organisation terroriste?
Oui, mais moi j'ai jamais... Vous savez, mon père était ouvrier agricole, n'avait jamais lu un livre de philo, il était philosophe. Donc j'en connais qui en ont lu des livres de philo et qui sont pas philosophes du tout non plus, ou des agrégés. Agrégé, il y a que les moules qui s'agrègent. Enfin bon, ou certifié avec le CAPES, vous êtes certifié de philosophie, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes normalien. Donc Paul Nizan disait l'école dite normale est prétendue supérieure et ça vous donne le droit de dire des bêtises, d'en penser beaucoup. Et vous dites mais c'est quand même étonnant que la culture ne garantisse pas de la bêtise.
Pas de l'antisémitisme, en tout cas.
Non, l'intelligence non plus. C'est-à-dire Foucault, par exemple, il fait un éloge incroyable de la révolution iranienne. Il n'a pas un mot sur la question juive. Il ne vient pas à l'esprit que ce type qui nous dit « Ah, enfin, de la spiritualité dans la politique, ça nous manquait, c'est formidable ». Il ne lui vient même pas à l'esprit qu'il y a eu une révolution française et que dans la révolution française, on a supprimé la théocratie au nom de la démocratie. Et la théocratie, quand elle est iranienne, il trouve ça formidable. Et il ne se dit pas à un moment donné, mais c'est quoi le statut des Juifs, voire même le statut des femmes, dans cette révolution iranienne? Pas du tout. Il fait un éloge décomplexé, et quand des femmes, une femme en l'occurrence, dans la presse l'interpelle, il devient extrêmement violent en disant « Vous êtes qui? Vous n'êtes pas universitaire, vous ne savez pas lire, et j'ai écrit un texte qui était très clair, si vous saviez lire, vous n'auriez pas compris ces bêtises, etc. » Donc dans le genre, je refuse de savoir. Non, je pense que il y a chez nombre d'intellectuels une espèce de tropisme religieux, de foi. Vous avez la foi, et il y a eu des marxistes qui avaient la foi, et puis après ils ont cessé d'avoir cette foi-là, ils ont une autre foi. Vous avez des gens qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé à Paris et qui ont été trotskistes, qui ont été maoïstes, ça les gêne pas du tout d'avoir eu cette foi-là, et puis aujourd'hui de prétendre exactement l'inverse, voire le contraire. On n'aurait pas la cruauté de donner quelques noms, mais enfin tous les gens qui ont 10 ans de plus que moi j'avais 10 ans en 68, ça me dispensait de dire des bêtises, mais les gens qui ont 10 ans de plus que moi, vous voyez à qui je peux songer, ce sont tous des gens qui ont plongé dans cette espèce de marigot et qui ne disent pas aujourd'hui « Eh oui, j'ai dit des choses dont je pourrais me repentir aujourd'hui. » Ne serait-ce que la défense de la pédophilie. Et ça, chez Bruckner, chez Finkielkraut, il n'y a pas une ligne de regret en disant « Mais comment ai-je pu penser une chose pareille ?» Vous savez ça chez Cohn-Bendit. Cohn-Bendit ne regrette rien. Donc, je ne pense pas que l'intelligence ait beaucoup à voir avec la culture. Je ne pense pas. Alors ça, je suis sûr qu'elle n'a rien à voir avec les diplômes, qu'elle n'a rien à voir avec le statut social. Vous pouvez être professeur au Collège de France, vous pouvez être professeur à la Sorbonne. Enfin, ça ne vous dispense pas de dire des bêtises. C'est une passion, l'antisémitisme, et elle n'épargne pas les hommes. Donc, vous savez, moi, quand j'ai lu Pascal, j'étais en seconde ou en première ou quelque chose comme ça. J'avais 13-14 ans, et quand j'ai lu chez lui que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Je me suis dit, il exagère, le Pascal, quand même, c'était un pessimiste. Hein. Et puis, le temps passant, découvrant le monde tel qu'il est, j'en suis infiniment persuadé que le cœur de l'homme est plein d'ordures. Et qu'il y a quelques hommes qui échappent à ça. Quelques hommes qui, eux, sont Camus, par exemple. Prenez un Camus sur la question Israël. Il n'a pas dit grand-chose sur les Palestiniens, sur le cas des Palestiniens, mais sur la question d'Israël, il n'a jamais dit de bêtises. Et Camus était... Alors, je suis fils de pauvre, donc je ne vais pas non plus... jouer cette carte-là, mais il était fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. Il n'a pas fait l'école normale, il n'était pas agrégé, il était d'une certaine manière provincial, puisqu'il était algérien. Et donc, ça dispense de dire des bêtises. Regardez le trajet, j'ai fait un livre sur la politique de Camus qui s'appelait « L'ordre libertaire ». C'est impeccable. Il n'y a aucune compromission, nulle part. Donc, chez Camus, sur la peine de mort, sur le nazisme, mais sur Hiroshima, lui en a parlé. Ils ont été très peu à en parler d'Hiroshima à cette époque-là. Et certains même en ont parlé, je pense au journal Le Monde, en disant « Ah, quel triomphe de l'industrie, quel triomphe de la science, quel progrès a été fait avec Hiroshima et Nagasaki », des philosophes qui ont dit des choses comme ça. Donc on comprend qu'un Michel Serres ait pu s'énerver à ce moment-là, mais c'est le XXe siècle...
Ça n'excuse pas.
Non, le XXe siècle, c'est effectivement Auschwitz, mais c'est aussi Hiroshima, et puis c'est aussi peut-être Tchernobyl si on veut, mais ce ne sont pas des catastrophes équivalentes.
Et la conclusion, Michel Onfray, c'est qu'on en fait quoi de tous ces auteurs? Alors, on a découvert qu'ils sont atroces, qu'ils ont dit des trucs atroces et qu'ils sont antisémites, alors on lit plus Alain, on lit plus Sartre, on lit plus de Beauvoir, qu'est-ce qu'on fait?
Non, surtout pas. Je suis pas de ceux qui voudraient qu'on débaptise. Moi, je suis normand. Alain était normand. Et à côté de mon village natal, à Alençon, il y a un lycée Alain. Et on m'a dit, il va falloir militer pour débaptiser ce lycée. Et la personne qui me disait ça me donnait d'ailleurs le nom de quelqu'un qui a été chef de maquis, etc. Bien sûr que moralement, il vaudrait mieux ce chef de maquis. D'ailleurs, je dis, donc vous m'apprenez le nom. J'ignorais qu'il l'avait été. Mais je suis contre ça. C'est la cancel culture. Parce que si on commence à faire ça, alors là, je vous assure qu'on va en débaptiser des lycées, des collèges, des rues. Parce qu'après, vous allez chercher toutes les informations biographiques concernant machin, bidule, un tel ou autre. Puis vous allez trouver de bonnes raisons de dire « Ah bah non, celui-là, il a été sexiste, il a été machiste, il a été misogyne, il faut plus le lire. » Puis après, on vous dira « Ce type, il a été blanc. » Et puis après, ce type, il a été catholique. Puis après, on vous dira « Il était blanc catholique, quinquagénaire. » On va pas lire Kant. Et puis, si vous dites... On ne lit plus les philosophes antisémites, vous faites sauter Kant, vous faites sauter Hegel, vous faites sauter Voltaire, vous en faites sauter pas mal, hein, Schopenhauer, vous en faites sauter même Marx, Heidegger, vous vous rendez compte. Donc je ne suis pas de ceux qui disent ne lisez pas Heidegger, par exemple. Je suis de ceux qui disent au contraire, comment pouvez-vous dire que le nazisme d'Heidegger a été une espèce d'épiphénomène ou rien du tout? Je pourrais entendre quelqu'un qui me dirait, mais Heidegger, c'est un grand penseur de l'esthétique. C'est un grand penseur de la technique. Je ne crois pas que ce soit un grand penseur de l'esthétique. C'est un grand penseur de la technique. Mais il a été antisémite, il a été nazi, il l'était de manière rabique, il l'a été franchement. Il a eu sa carte au parti nazi de 33 à 44, ou 5, je ne sais même plus, je crois que c'est 45. Et c'est inacceptable. Mais j'ai fait un chapitre sur Jean Beaufray en disant, bon, ce sont les philosophes de gauche. Jean Beaufray était un homme de droite, voire d'extrême droite, il a fini négationniste. Mais je dis, ce texte est important dans l'économie du livre parce que Beaufray est celui qui a rendu possible tout l'heideggerianisme français. Et je vous assure qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont échappé à Heidegger. Vraiment, les gens qui ont dit non, c'est n'importe quoi, c'était des gens assez rares, et parfois juifs. Et quelqu'un comme Jean Kelevitch, il a bien compris, lui, que Heidegger était une espèce de fumisterie, et puis un salaud, quoi. Et donc, je ne suis pas de ceux qui disent ne lisez plus, mais lisez en sachant. Sachez que par exemple, Simone de Beauvoir travaillait à Radio Vichy, que Sartre a publié dans des revues de collaboration comédien, par exemple, trois fois pendant, c'est-à-dire au début, au milieu, à la fin. Sachez-le, mais après, ne vous interdisez pas de lire La Nausée ou le Deuxième Sexe. Ce serait ridicule de dire. Elle a signé d'ailleurs une déclaration disant qu'elle n'était pas juive pour prendre la place d'un juif qui avait été viré par Vichy. Ça fait des gens dégoûtants, mais il reste des œuvres. Et puis ça sert à rien de dire ce sont des gens détestables moralement, et ça veut dire que les thèses du Deuxième Sexe sont nulles. Bon, c'est faux. En revanche, ce qu'il faut faire, parce que moi quand j'ai lu j'étais très sartrien, très beauvoirien quand j'avais 14-15 ans et que je lisais. Alors il n'y avait évidemment pas les correspondances, pas les mémoires, pas toutes les mémoires et pas les biographies. Donc on ne savait rien de ce qu'était la vérité de ces deux-là, biographiques, mais on savait ce qu'ils racontaient. Mais quand vous regardez dans la Pléiade les mémoires de Simone de Beauvoir, elles ne sont pas annotées. Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit est pris pour argent comptant. Ce sont des beauvoiriens malhonnêtes. Ça veut dire que j'en fais pas un pléonasme, hein, mais des beauvoiriens malhonnêtes, parce que quand ces gens-là nous disent qu'elle a été résistante, que Sartre a écrit un projet de constitution qui a été envoyé au général de Gaulle, que le général de Gaulle, enfin, etc., etc., tous les mensonges, les omissions, par exemple, quand vous lisez qu'il aurait écrit une fois dans Comédia, mais que c'était un texte qui n'avait rien à voir, etc., vous dites, c'est pas vrai. Il a écrit trois fois, il a été l'auteur de l'année 43 pour cette revue Comédia, enfin bon, il faut dire les choses. Puis après, on n'aime pas, mais on dit la vérité. Donc vous dites, oui, sur un certain nombre de questions, il a dit des bêtises. Et puis on lit, on travaille, on fait un travail intellectuel. Mais je suis contre le fait de dire, faisons de nouveaux autodafés et brûlons tous les gens qui ont été antisémites, misogynes, phallocrates, homophobes, etc. Parce que là, il ne reste plus grand-chose de la littérature et de la philosophie.
Et ben c'est déprimant tout de même.
C'est la nature humaine, c'est la vie, il y a très peu de héros, vraiment. Vous savez, il y a beaucoup de salauds et il n'y a pas de raison que dans le monde de la philosophie, la ligne de partage ne soit pas la même. Il y a à peu près autant de salauds que de héros, enfin autant que, je ne sais pas, moi quand je cherche les gens impeccables, j'aime beaucoup les biographies moi, de philosophes. N'en trouvez pas beaucoup. Alors évidemment, plus vous descendez dans l'Antiquité, moins on a d'informations, donc plus ils sont purs. Mais quand vous avez des biographies de 500, 600 pages aujourd'hui, vous trouvez des trucs pas forcément terribles, quoi.
Merci beaucoup Michel Onfray, l'autre collaboration chez Plon, et ça crapote un peu parce que bon voilà, forcément on est dans des marécages antisémites, mais c'est important et il faut que ça soit su, il faut que ça soit dit, il faut que ça soit partagé.
Qu'est-ce qui crapote, vous voulez dire?
Ils sont crapoteux, voilà.
Oui. Mais bon, enfin, je ne vais pas parler de Bernard Lévy, les Juifs, donc heureusement que... Mais parce que vous avez des Juifs qui n'aiment pas Israël, hein, qui, je pense à des Edgar Morin,
ou à d'autres, ou à
Roman, qui n'est pas un philosophe, mais
ouais, heureusement qu'on a des va. Bernard comme Lévy, des Alors Lucchéry, 20 secondes.
André Comte-Sponville, enfin une génération d'aujourd'hui, je ne parle pas d'Israël non plus, qui était Juif, ou Jean Kelevitch, mais des Goy, pour le dire comme ça, qui eux n'ont pas été antisémites, bon, ça fait plaisir quand même de savoir qu'il en existe tout de même. Je vous donne les noms de cette jeune...
Heureusement.
Oui, absolument. Oui.
On s'en réjouit. Merci beaucoup. À très vite.
Merci, à très vite.